Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 78e numéro de Force 7, les vœux du monde économique des Alpes de Haute-Provence, nous entendrons les présidents de la CCI, de l'UDE et de la D04. Également au sommaire, les vœux du maire de Saint-Vincent-sur-Jabron. L'agglomération Manosquine va créer un conseil communautaire jeune. Les 16-25 ans du territoire peuvent se présenter et être actifs. Des détails dans ce magazine. Professeur d'art plastique et peintre depuis toujours, Annick Santelli expose dans nos studios de Manosque. Économie, CCI, UDE, AD, trio gagnant des Alpes de Haute-Provence.
Tous les trois président des structures essentielles à l'économie et tous les trois sont des chefs d'entreprise dynamiques. Daniel Margot tient les rênes de la Chambre de commerce et d'industrie, Didier Long préside l'Union des entreprises et Denis Vaugade est le président de l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence. Issus du monde de l'entreprise, ils sont engagés dans la société civile avec conviction et énergie. Et par-delà l'amitié qui les relie, c'est bien une idée de l'entreprise, le rôle de ses dirigeants et l'amour du territoire qui les unit. Alignement pour une même cause, synthétisera Didier Long lors d'une cérémonie de vœux dont les acteurs économiques étaient privés depuis 3 ans pour cause de crise sanitaire. Le maire de Manosque, Camille Galtier, en accueillant les participants, a insisté sur les prises de risque des chefs d'entreprise en tout temps et particulièrement à l'heure actuelle. Pour sa part, Daniel Margot a évoqué l'actualité, les difficultés de recrutement, l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières, l'inflation et les tensions sociales qu'elle génère, ainsi que la remontée des taux d'intérêt et le remboursement des prêts garantis par l'État qui ont sauvé bien des sociétés ces 2 dernières années. Denis Vaugade, lui, a salué l'équipe de l'agence de développement qui relie l'économie au tourisme et vice-versa. Ce n'est pas un optimisme hors sol qui anime les trois présidents, mais la volonté de trouver des solutions adaptées aux ressortissants et respectueuses de leur mandat. Une chambre consulaire, un syndicat d'employeurs et une agence issue du public privé, une force certaine sur un territoire aux réels atouts. Les interviews du trio gagnant du 04 le confirment. Daniel Margot, président de la CCI 04, avec vos amis de l'UDE et de la D04, vous avez présidé, entre guillemets, cette cérémonie particulière des vœux et vous avez annoncé une bonne nouvelle en ce qui concerne les économies d'énergie. Un chargé de mission va être recruté par la Chambre.
Oui, chargé de mission qui effectivement va être recruté pour les énergies, mais aussi pour la partie investissement et le plan de relance France 2030, où il y a des subventions à aller chercher. Mais pour ça, il faut accompagner nos chefs d'entreprise qui n'en ont pas forcément ni le temps, ni la capacité administrative.
C'est votre mission que de répondre aux inquiétudes des chefs d'entreprise.
Oui, entre autres, des inquiétudes, mais surtout de l'accompagner. Il ne faut pas être défaitiste. On a tous commencé par un petit discours défaitiste pour se projeter vers 2023 en disant qu'on a été résilient, mais qu'on a aussi beaucoup d'espoir dans l'année 2023.
Avec une situation économique qui est florissante, comment ça se passe?
Alors, c'est partagé en fonction des secteurs, mais parfois les carnets commandes sont pleins, voire très plein. Par contre, il y a toujours un problème d'inflation et donc les marges peuvent s'écrouler un peu. Et puis la recherche de main-d'œuvre pour pouvoir assumer ces carnets de commandes qui sont relativement pleins.
Vous avez également insisté sur les relations qui existent entre la Chambre et les services de l'État, notamment.
Oui, oui, bah c'est comme toutes nos trois structures. On a l'avantage d'être sur un département rural de proximité. On se connaît tous, ça a été dit par Denis lors de ses vœux. Et en fait, on a une proximité avec l'État qui est relativement simple et facile.
À vos côtés, c'est un représentant syndical dans cette équipe. Didier Long, vous présidez l'UDE 04. Vous aussi, vous défendez les chefs d'entreprise.
C'est notre rôle aujourd'hui que de défendre les chefs d'entreprise, de leur apporter du service au sein des structures administratives.
Vous êtes à la liaison en fait de toutes les entreprises, mais en même temps des organes nationaux qui défendent les entreprises. Vous avez des besoins qui remontent ?
Il y a toujours des besoins qui remontent, mais nous, on est très axé territoire aujourd'hui. Ce qui se passe à Paris ne se passe pas forcément ici. Il y a des inégalités entre les départements, entre les villes et notre territoire, qui est un territoire rural avec des particularités rurales. C'est ce que nous prenons en compte aujourd'hui pour essayer de faire avancer les choses, de faire comprendre ce que sont nos problématiques et nos besoins.
Vous avez évoqué également les services que vous adressez à vos ressortissants, et notamment l'Université des entrepreneurs.
Oui, tout à fait. On a eu l'occasion déjà d'échanger là-dessus. Donc ça a été une université qui a été vraiment bien menée, qui a été très appréciée par tous les participants avec des animateurs de haut vol.
Troisième protagoniste de cette affaire, de ce développement économique dans les Alpes de Haute-Provence, c'est bien sûr l'agence de développement des Alpes de Haute-Provence. Denis Vaugade, vous la présidez. Et au terme irrésistible, vous avez rajouté « visible ».
Oui, c'est normal, parce que c'est bien beau d'être irrésistible, mais encore faut-il qu'on nous voit. Donc c'est vraiment le travail de l'AD au quotidien, c'est de rendre les Alpes de Haute-Provence visibles, et pas que visibles dans son propre département, mais bien évidemment à l'extérieur du 04, pour rendre plus attractif notre département. Et surtout, c'est vraiment une démarche qu'on a faite depuis ces trois années Covid, c'est vraiment de se reposer et d'aller reconquérir nos clientèles de proximité, c'est-à-dire Grand Sud et Occitanie. Et ça a marché.
Revenons sur cet événement en 2022, c'est bien sûr le Salon de l'agriculture. Vous remettez le couvert cette année.
Oui, bien sûr, sous la houlette du Conseil départemental, avec une forte motivation d'Hélène Barraille et son équipe pour représenter les Alpes de Haute-Provence. Et c'est nous qui assurons la partie engineering et montage de ce formidable événement, parce que c'est aussi un savoir-faire. On fait beaucoup de salons par an. On parle de l'agriculture, mais on fait celui du tourisme, on fait celui du Roc d'Azur, on fait une trentaine de salons par an. Donc il y a un vrai savoir-faire à l'AD.
La structure de l'agence de développement, justement, c'est une structure publique-privée. Ça fonctionne bien ?
C'est fantastique, j'allais dire. C'est ce que j'ai essayé de décrire ce soir, parce que c'est là où le jouet collectif se met en œuvre. Je n'ai pas vécu en 4 ans, en tant que vice-président ou en tant que président, un bureau, un CA, une assemblée générale dans la difficulté. C'est très fédérateur, tout le monde est d'accord. On a envie de vous faire rêver, on essaye de nous faire rêver nous-mêmes, j'allais le dire comme ça.
L'économie, ça va bien avec le tourisme ?
C'est pas que ça va bien, c'est que 30% du PIB des Alpes de Haute-Provence est généré par le tourisme. Comment on peut parler d'économie et pas parler de tourisme, ou de parler de tourisme sans économie ? C'est une aberration.
Saint-Vincent-sur-Jabron, cérémonie des vœux tonique.
Après les restrictions sanitaires, une première cérémonie des vœux pour Nicolas Figuière, maire de Saint-Vincent-sur-Jabron, élu en 2020. La commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, dans les Alpes de Haute-Provence, s'étend sur 30 km et compte plus de 200 habitants. Situé à une vingtaine de kilomètres de Sisteron, le village fait partie de la communauté de communes Jabron-Lure-Vençon-Durance. Pour cette présentation des vœux à la population, étaient présents bon nombre d'élus des communes voisines, ainsi que le président de la communauté de communes, René Avinens. Le maire a remercié pour leur présence la nombreuse assistance, ainsi que les membres du conseil municipal. Au micro de Chris Alessandri, les réactions du président de la communauté de communes, René Avinens, puis nous entendrons Alain Coste, maire des Omergues, Thierry Bellemain, maire de Curel, et bien sûr Nicolas Figuière pour Saint-Vincent-sur-Jabron.
Moi, à titre personnel, c'est la première fois que je viens au vœu de Saint-Vincent. Je suis très agréablement surpris, d'abord par la participation, et puis par le dynamisme de la commune, quoi. Alors moi, je parlerai de ce que je connais, puisque c'est pour des projets intercommunaux, notamment les problèmes de collecte d'ordures ménagères et de tri sélectif, de tri des biodéchets. Je suis très satisfait que Nicolas ait pensé à en parler et à dire que, enfin, à préciser que c'était vraiment important, parce que sinon, effectivement, on sera obligé d'augmenter les taxes. Et on ne fait jamais ça de gaieté de cœur. Enfin, en tout cas, sur les autres projets, très surpris. Pas autant que ça, finalement, parce que les communes rurales, quoi qu'on en dise, sont des communes très vivantes et qui ont une proximité avec les administrés. C'est la démonstration que les communes rurales sont importantes et qu'il y a un grand intérêt à les conserver, en tout cas, le plus longtemps possible.
Avoir une équipe soudée, président, c'est important pour vous ?
Ah ben oui, à tous les niveaux. Hein. Vu la façon dont ça a été évoqué, ça se passe bien à Saint-Vincent. En ce qui concerne la Comcom, ça se passe bien aussi. Bon, on a parfois des divergences de vues, mais en tout cas, chez nous, moi je le dis à chaque conseil communautaire, toutes les communes sont représentées, toutes les communes ont droit à la parole, même si toutes n'ont pas le même nombre de délégués. Chez nous, on est assis tous autour de la même table et tout le monde est important.
Et nous avons plusieurs maires.
Alain Cosse, le maire des Omergues. Donc je rejoins un peu monsieur le président de la Comcom. On s'aperçoit que les petites communes ont un dynamisme et des maires qui sont agréables, très près de la population. On est là pour assumer notre responsabilité et toujours être à l'écoute de nos concitoyens. Et ça, ça fait plaisir.
De quelle façon est-ce que vous voyez l'avenir, disons, pour les petites communes comme les vôtres ?
Bon, l'avenir, je le souhaite comme ça s'est passé jusqu'à présent. Mais malheureusement, on s'aperçoit que petit à petit, on veut nous faire disparaître. On nous supprime beaucoup de choses, on nous donne moins de subventions, les prix augmentent. C'est très dur de gérer nos communes. Et avant, on passait peu de temps à gérer. Et maintenant, c'est pratiquement toute la journée qu'il faut gérer la commune, si on veut faire des travaux, bien sûr. Et comme la population vient de l'extérieur, ils sont plus demandeurs d'améliorer la qualité de vie que nos anciens. Les anciens, ils savaient le faire tout seuls. Maintenant, ils ont besoin, les gens, d'avoir un maire et conseiller municipal qui soit là tout le temps à leur écoute.
Thierry Belmain, le maire de Curelles. Ravi d'être à Saint-Vincent pour les premiers vœux de la nouvelle mandature depuis 2020. Très agréable, sympathique et un discours qui change de l'ordinaire et qui était bien sympathique à écouter.
Il y a bon nombre de maires jeunes à présent sur les communes du territoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce regain de jouvence sur le territoire ?
C'est très bien parce que c'est difficile de trouver des gens motivés parce que c'est quand même ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de travail malgré tout. Que la commune soit petite ou grande, moyenne, la charge de travail est assez importante, donc c'est bien que des jeunes se motivent et viennent prendre la suite des anciens.
Nicolas Figuère, une soirée de vœux qui se passe très très bien, beaucoup de monde. Quelles sont vos impressions ? Parce que là, effectivement, la salle semble trop petite pour le monde qui est arrivé.
Oui, soirée de gala pour mes premiers vœux. Énormément de monde pour la petite commune de Saint-Vincent. Je dirais une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc bonne impression, j'ai essayé de faire des vœux plutôt sympathiques et joviales, ce qui correspond à la commune et à l'ambiance qu'il y a sur la commune.
Nicolas Figuère, il y a beaucoup de travail derrière vous, derrière l'équipe qui vous accompagne. Quelles ont été vos priorités quand vous êtes arrivé en mairie ?
Les priorités ont été de remettre aux normes du jour toute la commune. Il y avait beaucoup de papiers en retard et j'ai une équipe, un bon deux tiers de mon équipe qui m'aide à œuvrer pour faire avancer le village.
Vous faites partie de ces jeunes maires qui sont là sur le terrain. Avant d'arriver en tête comme ça d'une commune, premier magistrat, quelles sont vos impressions une fois que vous y êtes ?
Non, je ne voulais pas être le premier magistrat spécialement quand je me suis présenté, mais je suis un jeune du cru, du pays, et j'ai voulu essayer de porter mon village au plus haut qu'il puisse aller.
Pourquoi cette volonté de vous investir ?
Pour faire avancer mon village et pour qu'il perdure et pour qu'il soit connu dans la région.
Quelles sont les priorités que vous allez aborder, les projets pour l'avenir, pour le village de Saint-Vincent ?
Les projets, il y a un gros bâtiment communal et on veut faire une chaudière qui alimente la cantine, l'école, la salle de mairie, la salle des fêtes. Ça, c'est un gros projet qu'on veut avoir. Aménager une aire de tri où il va avoir les nouveaux bacs de collecte de la communauté de communes parce que la CCJLVD met à disposition des nouveaux bacs de collecte et on va faire aussi peut-être un composteur individuel et un dépôt de déchets verts.
Quels sont les vœux que vous formulez pour 2023 pour Saint-Vincent-sur-Jambon ?
Surtout la santé et de pérenniser la commune et qu'on soit un maillon fort de la vallée du Jambon.
Mesdames, messieurs, bonne ambiance ce soir ici au Vœux.
On va danser après.
On est venu esprit quand même. Je ne veux pas rater ça.
Hein? Il y a longtemps que vous le connaissez, le maire.
Oui, je connais tout Saint-Vincent quand même. Je suis de Saint-Vincent.
Vos impressions sur la soirée, monsieur?
Je suis content. Je vois que des gens que je connais, des anciens.
L'image que vous avez de la mairie à l'heure actuelle?
Une mairie qui tente de faire des choses que personne n'a osé faire. Il était temps. Voilà.
Des débouchés, vous êtes le doyen ici du village. Est-ce que je peux vous demander votre âge?
92 ans et demi.
Vous avez été combien de temps maire ici à Saint-Vincent?
Un mandat. Un mandat conseiller municipal, un mandat maire.
C'était en quelle année?
95. J'étais maire jusqu'en 2001.
Comment ça s'est passé au niveau de la relation avec les habitants du village lors de votre mandat et puis à présent, maintenant que vous êtes aussi le doyen du village?
Ben moi, ça se passait très bien. J'avais été le plus grand élu de la commune, j'étais content à l'époque.
Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Vincent à l'heure actuelle en 2023?
Je pense que la mairie c'est très bien, mais qu'il n'y a pas beaucoup de travail et les gens sont embêtés. Peut-être qu'ils n'en cherchent pas beaucoup non plus. Mais...
DLV Agglo va créer un conseil communautaire jeune.
À l'heure où les jeunes se désintéressent de la politique et se méfient des pouvoirs publics que souvent ils méconnaissent, l'idée de l'agglomération est pertinente. À l'instar du conseil adulte de Durance-Luberon-Verdon Agglomération, le CCJ pourra porter des projets et des actions décidées par ses représentants. Avec un accompagnement et bien sûr un budget dédié, les élus du Conseil communautaire jeune se pencheront sur quatre thématiques déjà esquissées. L'environnement, l'insertion professionnelle, la mobilité et la citoyenneté. Des sujets de préoccupation pour la jeunesse et cette structure leur permettra d'agir à l'échelle locale. En présentant l'action à la médiathèque de Sainte-Tulle, les responsables de la DLVA ont insisté sur le fait que le CCJ soit un lieu d'échange et d'action autour de projets définis en commun par et pour les jeunes. Les mairies, points d'information jeunesse et réseaux sociaux seront mobilisés pour lancer l'affaire et la campagne électorale pourra démarrer avec les candidatures le 6 février. Les 18-25 ans originaires ou usagers du territoire pourront se présenter. Le 31 mars, l'Assemblée, forte d'une trentaine d'élus, sera officiellement installée pour 2 ans par le président Pétrigny. Je vous propose d'écouter Béatrice Garcia, déléguée à la jeunesse de l'agglomération, qui est en charge du dossier. Béatrice Garcia, vous êtes déléguée à la jeunesse à DLV Agglo et le conseil communautaire jeune est sur les rails.
Oui, tout à fait. Nous avons souhaité, le président et moi-même, impliquer les jeunes de façon très concrète dans la politique donc jeunesse qui les concerne sur le territoire. Et nous allons mettre en place très prochainement un conseil communautaire jeune.
C'est une idée qui vient déjà de 2021, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, depuis le début du mandat, nous travaillons avec les jeunes à travers le projet Envol, Ensemble et Volontaires, et nous impliquons tout à fait les jeunes à développer ce projet Envol. On leur laisse la parole, il y a eu plusieurs assemblées qui se sont réunies, 4 assemblées de jeunes, une assemblée d'élus et une assemblée de professionnels de la jeunesse. Et ensuite, nous avons fait une assemblée plénière le 8 novembre 2021, et c'est de là que différentes thématiques ont été abordées par les jeunes de notre territoire. Moi, j'ai été vraiment très, très satisfaite de voir l'implication citoyenne des jeunes. C'est vrai qu'ils ont un désir de comprendre comment se passe un conseil communautaire. Ils ont envie de s'impliquer dans la vie de leur cité. J'ai été vraiment émue et touchée de leur volonté de prendre des décisions et de s'impliquer politiquement.
Quels sont les critères pour être candidat à ce conseil communautaire jeune?
Alors les critères, c'est d'avoir entre 16 et 25 ans, faire partie du territoire. Alors quand je dis faire partie du territoire, c'est à la fois habiter une des 25 communes du territoire, mais ça peut être également faire sa vie sur le territoire. J'entends par là les lycéens qui sont internes sur Manosque pourront faire partie de ce conseil communautaire jeune. Et nous allons donc essayer de toucher les jeunes lycéens de Manosque, les trois lycées, l'école internationale, pour qu'on ait une véritable mixité autour de cette jeunesse. Nous allons aussi faire appel à nos partenaires du réseau habituel, la mission locale, l'école de la deuxième chance. Et on espère aussi pouvoir toucher des jeunes étudiants ou des jeunes qui sont déjà salariés sur le territoire.
Quelles sont les attentes des élus communautaires adultes ?
Je n'ai pas la vision de l'ensemble. En tout cas, le président et moi-même avons une véritable attente envers ces jeunes et je pense qu'on ne sera pas déçus parce qu'ils sont pleins de réflexion, force de proposition. Les quatre thèmes qui ont pu être dégagés de ce fameux forum ouvert du 8 novembre 2021 sont l'environnement, la mobilité, l'insertion professionnelle et la citoyenneté. Et c'est d'ailleurs le groupe citoyenneté qui a souhaité mettre en place un conseil communautaire jeune. Je pense que à travers ce conseil communautaire jeune, les jeunes auront beaucoup de choses à nous proposer et on pourra justement faire des passerelles avec le conseil communautaire des élus aujourd'hui.
Alors le président Pétrini l'a dit, évidemment c'est l'apprentissage à la citoyenneté, mais c'est aussi quelque part une lutte contre l'abstention de cette jeunesse de 18-24 ans. On sait que les chiffres sont très mauvais.
Oui, oui, tout à fait. Aux dernières élections de 2022 et les présidentielles et législatives, il y a eu une forte abstention des jeunes. Et là, avec la création de ce conseil communautaire jeune et le désir des jeunes de notre territoire de pouvoir s'impliquer de façon politique et pour l'intérêt général, montre que quand même, il y a des jeunes qui sont conscients qu'il faut s'impliquer pour pouvoir faire changer les choses.
Vous allez faire savoir que ce conseil communautaire jeune va être créé ?
Bien sûr, nous allons... déjà, il y a eu la conférence de presse de ce matin. Il va y avoir une diffusion donc via les réseaux sociaux. Chaque commune recevra de façon dématérialisée une affiche, des flyers. Charge à chaque commune, justement, d'être le relais auprès des jeunes de leur territoire. Et puis, notre équipe du service jeunesse fait le tour des différents lycées pour faire connaître cette instance auprès des jeunes lycéens de Manosque.
Début de la campagne le 6 février et puis l'élection après.
Alors début de la campagne le 6 février, il va y avoir toute une partie à partir du 17 mars qui sera la campagne électorale. Les jeunes pourront aller rencontrer les informateurs jeunesse des quatre points formation jeunesse du territoire, à savoir Manosque, Vinon, Gréou et Valensole, pour être aidés dans la rédaction de leur profession de foi. Et ensuite, à partir du 17 mars, il y aura la campagne électorale qui va débuter et les élections qui auront lieu à compter du 27 mars jusqu'au 31 mars.
Vous-même, bien sûr, vous êtes mobilisé sur ces élections de conseil communautaire jeune, mais également quelques élus de DLV Agglo.
Alors oui, bien sûr, moi j'accompagnerai au plus près tous ces jeunes, je serai à leur côté tout le long de leur mandature pour les accompagner, les soutenir dans leurs projets, leurs réflexions. Mais il y a des élus qui sont très impliqués dans ce projet depuis le début. Je voudrais citer Annie Boyer qui est élue à Valensole et Monique Ours qui est élue à Gréou, qui sont à mes côtés depuis le début et qui sont très très investis dans ce projet et qui seront, j'en doute pas, les porte-parole des jeunes sur leur commune.
Manosque, Annick Santelli expose dans nos studios.
Elle est de ces belles rencontres que nous propose l'Artothèque, l'art en partage. Annick Santelli a accroché plusieurs toiles sur les murs de nos studios manosquins. Son univers, tout en couleurs chaudes, attire les regards et laisse libre choix à l'interprétation du visiteur. De plus, l'artiste a choisi l'huile, un matériau difficile à utiliser, mais au rendu incomparable. Ces tableaux sont exposés dans nos locaux, boulevard des Tilleuls, et sont visibles en février et mars. Annick Santelli répond à mes questions. Annick Santelli, vous êtes professeur d'art plastique et vous exposez à la radio Fréquence Mistral. Comment êtes-vous venu à la peinture ?
Alors, je suis venu à la peinture il y a vraiment très très longtemps de ça. Ça s'est imposé assez rapidement, la peinture. Je dessine depuis toute petite, je bricole... Je suis assez manuelle et puis quand j'ai commencé la fac d'art plastique à Aix-en-Provence, je me suis très rapidement orientée vers cette technique avec laquelle je suis à l'aise et qui me fait du bien.
Vous exposez régulièrement dans le cadre de l'Artothèque ?
Non, pas vraiment encore. Je suis à l'Artothèque depuis l'année dernière, à vrai dire. Donc j'ai rencontré Frédéric, qui s'est assez rapidement attaché à ce que je faisais, qui est venu me voir à mon atelier à Saint-Julien-le-Montagnier. Et puis à partir de là, bon, j'ai fait un prêt d'œuvre à l'Artothèque, et puis il s'avère qu'elles ont pas mal de succès. Donc j'ai exposé avec l'Artothèque l'année dernière à la Fondation Carzou. Après, je fais des petites expositions locales ou vraiment à côté de chez moi. Voilà, je suis vraiment peintre, mais peintre, je vais dire du dimanche, mais non, un peintre dilettante, voilà, on va dire.
Comment est-ce qu'on appréhende le regard des spectateurs lorsqu'on fait une exposition ?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais très très peur d'exposer. Je me disais, je ne saurais jamais quoi dire. Il était impossible pour moi de parler de ce que je faisais. Et puis, l'âge avançant, on est plus à l'aise quand même. Et on a du recul par rapport à son travail. Les mots commencent à se poser sur ce qu'on fait, sur ce qu'on crée. Et on a la capacité de les présenter à un public et d'en parler, tout simplement.
Alors, il y a une constante dans les peintures qui sont exposées ici à Fréquence Mistral, c'est la couleur. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes.
Oui. Alors, depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, ma peinture a énormément changé. Elle a passé un cap. Elle s'est déstructurée, morcelée. J'ai l'impression que plus ça va, plus je fais sur des grands formats. Je travaille avec des tout petits outils, des pinceaux très fins. J'ai besoin de ce rapport, à vrai dire, avec la toile. C'est presque vital. La couleur est venue à moi de façon instinctive. J'ai commencé à peindre dans les années 80 et à ce moment-là, tout était noir. Je travaillais presque à la manière de Soulages, moins en épaisseur, mais j'avais vraiment envie de faire émerger des objets, des formes, d'une espèce de noirceur qui était peut-être la mienne d'ailleurs. Et petit à petit, la couleur est intervenue, elle est apparue, et ces dernières années, la couleur, elle est là, elle s'est imposée à moi. C'est presque expressionniste, je dirais, c'est-à-dire que c'est brutal, c'est contrasté, beaucoup de jaune, de couleurs, de lumière. J'ai l'impression que plus je me connais, plus la lumière apparaît dans mes œuvres.
Qu'est-ce qui vous inspire ?
La nature, ce qui m'entoure. Je puise partout. On va dire, j'ai l'impression que mon regard est comme l'optique d'un appareil photo. Et je suis toujours en train de chercher des cadrages. Après dire, dans la réalité de la nature, j'essaye de trouver des abstractions. Je me rapproche du sujet, je compose, mon œil compose. Je prends des photos d'ailleurs assez souvent, qui vont être le point de départ des compositions que je vais réaliser.
Vous avez choisi d'utiliser la peinture à l'huile, c'est pas le plus facile.
Oui, mais c'est ce qui m'offre le plus de possibilités de travailler en profondeur. La peinture à l'huile, vous savez, c'est vraiment une matière très particulière. Bon, elle est lente à sécher, bien que maintenant ça a fait quand même quelques progrès. Mais elle propose de travailler des glacis. Donc on peut travailler juste en posant les couches et donner énormément de profondeur à sa peinture. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'huile, à vrai dire.
J'ai bien compris aussi que votre démarche, elle est plutôt évolutive. Vous avez des projets ?
Ben, j'aimerais bien faire une expo un peu plus conséquente. Je me sens apte maintenant à présenter mon travail, peut-être même justement présenter cette évolution pour montrer au public comment tout au long du fil de ma vie, mon art a évolué et ma façon de m'exprimer a évolué.
Et on vous le souhaite. Une dernière question et pas des moindres. Quel effet ça fait d'exposer dans une radio ?
Alors c'est assez étonnant parce que c'est confidentiel à vrai dire, mais en même temps je me dis que c'est les gens qui passent ici, d'un coup ils vont se retrouver face à de la peinture et puis j'avoue que quand on rentre elle en jette un petit peu au niveau visuel parce que les couleurs sont fortes, les formats sont assez imposants et on se retrouve dans un univers qui est assez particulier. Donc ouais, j'aimerais bien voir un petit peu les gens qui rentrent, comment ils réagissent, mais bon moi ça je peux pas. Je suis assez ravie d'être ici, d'être présentée ici et de pouvoir discuter avec vous aussi.
Et on est ravis évidemment de vous accueillir et bien sûr de moi-même de vous interviewer. À bientôt Annick.
Merci beaucoup et à bientôt.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.